Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chroniques, reportages, interviews, expériences radiophoniques. Et retrouvez toutes les émissions en podcast sur le site internet labodessavoirs.fr.
Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
Depuis mars 2020 et la pandémie de Covid-19, les amphis et salles de travaux dirigés ont cédé leur place aux salles Zoom et à la débrouille étudiante. Enseignants, chercheurs, étudiantes et doctorantes ont vu leur quotidien bouleversé par les confinements successifs. Les campus universitaires se sont vidés de leur vie avant qu'elles reviennent peu à peu, mais toujours balbutiantes. Un an plus tard, à quoi ressemble la vie en université ? Cours réadaptés, doctorat chamboulé et vie étudiante confinée, c'est le fonctionnement général de l'université tel qu'on le connaît qui a dû être repensé. À travers le récit et les expériences de personnes qui font l'université, écoutons comment la fac s'est adaptée avec ses moyens à une vie en distanciel.
Campus de Besançon ce matin, quasiment aucun étudiant dans les allées. Sur le papier, le second semestre vient pourtant de commencer. Mais on est loin des amphis bondés de septembre. Des images qui semblent appartenir à un autre temps.
François Bourgogne-Franche-Comté, reportage du 4 janvier 2021.
Thibaut Emanuela, étudiant en biologie, était sur place ce matin pour un partiel. Presque une exception. Silence de cathédrale. Le moral semble plus bas.
On enlève tout le côté humain, quoi. C'est assez dur, hein, d'être vraiment tout seul, d'être tout seul tout le temps. Manger là où on travaille, où on dort, où on fait tout au même endroit, à la même place, c'est assez dur.
Bonjour et bienvenue au Labo des Savoirs. C'est une émission particulière cette semaine où nous avons laissé la place à des témoignages et des récits de vie. Le Labo, étant avant tout une association étudiante, nous avons pu observer les bouleversements amenés par la crise sanitaire tout au long de l'année passée. Et parce que l'université est surtout faite de ceux et celles qui la composent, la parole aujourd'hui sera donnée à deux étudiantes, une maîtresse de conférence et un doctorant. Elles et ils sont des bribes de vie, quelques mots mis sur ce quotidien qui a changé derrière le masque.
Les voix de la recherche scientifique au Labo des Savoirs.
Comment allez-vous aujourd'hui?
Eh ben, c'est marrant, on ne nous la pose pas beaucoup cette question.
Caroline Muller, maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'université Rennes 2.
Je me sens un peu fatiguée et un peu usée, mais ça va, on tient le choc. Mais ça commence à durer en fait. Donc on n'avait pas forcément dosé, je pense. Enfin, on n'avait pas réalisé que ça durerait aussi longtemps, donc on n'a pas forcément dosé notre énergie. C'est un peu comme quand on sait qu'on enseigne 12 heures dans la semaine ou en deux jours, on va pas doser l'énergie de la même façon que si on enseigne 3 heures. Mais sauf que, enfin, en tout cas, moi, j'avais pas vu venir qu'on aurait un an à faire comme ça, minimum. Donc j'ai un peu mis toutes mes forces dans la bataille et je commence à être un peu fatiguée.
Alors la fatigue, j'imagine que c'est lié à votre quotidien. À quoi est-ce qu'il ressemble en ce moment?
C'est très routinier. Je pense que c'est de la fatigue qui est liée à l'enfermement, déjà, parce que je fais cours et je travaille entre mes quatre murs. Alors moi, j'ai de bonnes conditions matérielles, enfin, j'ai pas un tout petit appart, je suis bien, hein, mais je suis fatiguée d'être juste dans mon espace domestique et aussi mon espace de travail. Alors là, j'ai pu retourner un peu à la fac, puis c'est de la fatigue aussi de préoccupation. De prise en charge en fait parce que la couche de travail aussi supplémentaire qui s'est ajouté, c'est le souci. C'est le souci pour les étudiants, c'est les soucis administratifs, les mails, etc. Donc en fait, il y a plusieurs niveaux de fatigue, quoi. Il y a la fatigue liée au surtravail parce qu'on fait beaucoup plus d'heures que d'habitude pour les raisons de passage à distance. Il y a la fatigue liée aux soucis. Et puis la fatigue de contexte qu'on a tous liée au fait qu'on est dans des vies un peu en mode dégradé, quoi.
Par rapport aux soucis administratifs, est-ce que vous avez par exemple des responsabilités pédagogiques ou...
Oui, je suis responsable de tout ce qui est enseignement à distance. Bah, assez curieusement, ça n'a pas été si compliqué que ça parce que les étudiants à distance sont habitués à être à distance. Donc finalement, pour eux, ça n'a pas changé énormément de choses. Moins que pour les étudiants qui d'habitude sont à l'université. Par contre, c'est vrai que là où ça a été très dur, c'était le tout premier semestre de confinement l'année dernière, parce que normalement, ces étudiants-là, ils viennent passer leur partiel à l'université, et les sessions ont été repoussées, passées à distance, etc. Et c'est des étudiants qui investissent de l'argent pour réserver des chambres d'hôtel, des billets de train pour venir passer leur partiel. Et donc, ça a été très mal vécu, le côté... certitude de la situation, en fait.
Une situation également vécue par Valériane Toby, étudiante en Master 1 Biologie-Écologie, Parcours Écosystème et Bioproduction Marine à l'Université de Nantes. Un parcours qui était pour elle une évidence.
Déjà, je vis à la mer depuis que je suis petite, donc je pense que ça a beaucoup influencé mon attrait pour ce domaine. Et en plus de ça, je me sens assez concernée sur tout ce qui est écologie et protection de l'environnement. Bah, tout ça relié, ça me plaisait bien. Et c'est un master qui abordait un peu tous ces thèmes-là à Nantes. Donc, je me suis dit, pourquoi pas.
Et à quoi ressemble le quotidien en ce moment avec les cours en distanciel et avec ces confinements successifs?
Entre le premier et le deuxième semestre, c'était assez différent, puisque bah, évidemment, on a eu la rentrée en présentiel. Bah, on rencontre un peu les gens du master, et puis même à la fac, enfin voilà, il y a vraiment une routine, mais agréable, enfin étudiante qui se crée, où on sociabilise, etc. Donc ça donne envie, c'est motivant. Et à partir du moment où on est en distanciel, c'est vrai que c'est un peu plus dur pour trouver la motivation. Donc, j'essaie quand même d'avoir un rythme, on va dire, sain, où le matin, je me réveillais, bon, j'avais cours en distanciel, etc. Mais c'est vrai que plus ça allait, surtout au second semestre, plus ça devenait dur d'avoir une rigueur, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup tendance à culpabiliser, de pas réussir à m'investir autant que j'aurais aimé. Parce que d'un côté c'était comme je le disais, des études qui me plaisent beaucoup et je me dis mais pourquoi je m'investis pas plus, quoi, alors que ça me plaît beaucoup, mais en même temps les conditions font que c'est pas spécialement motivant, et d'un côté je me dis ouais mais faut pas se trouver des excuses non plus, donc
vous êtes dans un master qui vous plaît, des études qui vous plaisent, mais les conditions sont difficiles. Qu'est-ce qui vous permettait de tenir, de continuer à suivre les cours et à rester motivée?
Je pense que c'est mon cadre social extérieur, en fait, parce que je suis en colocation cette année. Déjà, j'ai eu beaucoup de chance de me mettre en colocation cette année avec de bons amis à moi aussi qui sont étudiants. Et donc, c'est vrai qu'on avait chacun un peu cette routine de distanciel. Et au contraire de nous influencer en mal, ça nous a un peu poussé, je pense, chacun à s'y mettre à fond, à se dire allez, on y va, etc. Donc, sinon, j'aime bien quand même ce que je fais, donc j'arrive à être un minimum motivée, mais c'est juste que c'est un peu tout parfois au dernier moment, etc. Comme j'ai pas une rigueur cette année au fur et à mesure, on va dire, dans mes révisions, et que tout se fait un peu au dernier moment, ça crée une charge mentale qui est pas très très bien. Donc ça met une certaine pression finalement en un sens.
Il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent nous fatiguer. Vous, qu'est-ce qui vous permet de tenir ?
Le service public, le sens du service public, je crois, d'une certaine façon. C'est marrant parce que c'était quelque chose, enfin, cette expression-là et cette formule-là, elle me paraissait un peu galvaudée il y a encore 2-3 ans. Et puis je me rends bien compte là que quand on est en situation de grave crise, ça veut dire quelque chose, en fait, le fait de se mettre au service de gens qui en ont besoin et d'essayer de construire des choses positives ensemble, même à un moment où on n'a pas forcément l'espace mental, etc. Donc, moi, concrètement, quand je sors d'un cours qui s'est bien passé, parce qu'il y en a qui se passent bien, il faut le dire, des choses qui me gênent, c'est qu'on a que la partie hyper dure et hyper misérabiliste, et c'est normal, hein, parce qu'il faut alerter sur l'état mental des étudiants. Et il se passe des choses chouettes en cours. Et c'est important de le rappeler quand même. Donc moi, ce qui me fait tenir, c'est ça. C'est l'idée que j'ai rendez-vous avec mes étudiants et que et qu'on vient comme on est. Peut-être on est fatigué, peut-être on n'a pas envie, peut-être c'est lourd. Mais il y a cet espace de conversation-là, un moment fixe dans la semaine. Et pour moi, c'est important de continuer à penser ensemble pour pas perdre pied, en fait. Mais c'est tout un dosage, parce qu'en même temps, il ne s'agit pas de saturer les esprits au moment où on a besoin de respirer aussi. Donc voilà, le service public et l'idée que même en temps de crise, il faut parvenir à continuer à assurer cette mission de formation, de croissance mutuelle, ce genre de choses. Peut-être c'est un peu bêtement mystique, je ne sais pas.
Et Valériane, dans ces conditions... Est-ce que vous vous posiez des questions sur votre choix, sur la façon dont l'année de M1 se déroulait ?
Je pense que ça, c'est peut-être un aspect qui est partagé par pas mal d'étudiants. Surtout peut-être plus lors du premier confinement, mais le fait d'être un peu seul, du coup, il y a beaucoup plus d'introspection. Enfin, je trouve, en tout cas, pour ma part, j'étais moins active, beaucoup plus à penser... qu'est-ce qui est fait vraiment pour moi, etc. Est-ce que c'est la bonne voie et tout. Enfin, malgré le fait que je me plaise, il y avait forcément ces questionnements-là.
Et c'est des questionnements qui prennent de l'énergie, peut-être pas autant que vous ne le pensiez quand vous êtes entrée dans ce master et dans vos études.
Oui, je pense, tout à fait. En fait, c'est bien et pas bien, mais parce que ça peut ralentir, mais en même temps, se poser ce genre de questions... Comment dire, prendre du recul sur ce qu'on fait, c'est presque essentiel de le faire jeune et maintenant plutôt que quand on a fini nos études et qu'on va dans le monde du travail et qu'on se rend compte que finalement c'était pas du tout fait pour nous et voilà.
Mais justement, je me demandais, est-ce que dans ces choses qui peut-être ne reviendront jamais à la normale, il y a des choses que vous ne regretterez pas ?
Une chose que je regretterai pas, c'est l'inertie des pratiques pédagogiques. Et je pense que de ce point de vue-là, la crise sanitaire nous a obligés à affronter le renouvellement de nos pratiques pédagogiques. Et ça, quelque part, je trouve que c'est une bonne chose. Sans du tout être une apôtre de l'enseignement à distance, hein. Simplement, ce dont on parlait tout à l'heure, la façon dont les questions s'aiguisent quand on est à distance, je trouve qu'à un endroit, c'est important parce que ça nous fait beaucoup réfléchir sur ce que c'est qu'un cours, comment on pose les conditions d'une conversation, etc.
Je trouve que c'est une belle résolution, un beau vœu. Est-ce que vous avez eu l'impression d'apprendre des choses sur votre métier grâce aux récents événements ?
J'avais un peu un schéma avant-après dans ma tête. Je me disais, va falloir tenir le choc. Un an et demi. Et là, les dernières nouvelles ne me laissent pas très rassurée sur notre capacité à refaire une véritable rentrée. Enfin, c'est comme si j'avais basculé dans un espèce de doute sur ce schéma avant-après. Et ça, c'est assez décourageant parce que ça devient plus compliqué de se raccrocher à la perspective de dire « Ok, dans 5 mois, je suis de nouveau dans ma salle de classe ou dans 6. » Parce qu'en fait, on sait de moins en moins et ça, c'est un peu dur, ouais. Parce que ça manque terriblement, en fait. Ça manque terriblement dans la salle de classe, d'être en rendez-vous avec les étudiants, de tout ceci. Donc ça, c'est un peu décourageant, et l'usure et l'incertitude. Mais ça va, hein. Parce que là, on est complètement déprimée.
Valériane, est-ce que cette usure, ce découragement, a entraîné une détresse psychologique de la précarité parmi les étudiants que vous connaissez, peut-être parmi vos amis proches, vos connaissances ?
Oui, plus ou moins. Alors, dans mes amis proches, donc il y a plein d'étudiants très différents, de cursus différents. Globalement, un peu les mêmes avis, donc déjà de démotivation quand on est à la maison et qu'on a des cours en distanciel. il y en a plein qui sont un peu blasés. Puis en plus, des fois, il y en a qui sont un peu dégoûtés parce que il n'y a pas trop d'interaction avec la classe, etc. Donc c'est un peu triste. Après, je connais des gens, ouais, en licence où c'est hyper mal fait, surtout au niveau administratif. Ils connaissent leur date d'examen au dernier moment et tout. Donc ça fait une charge un peu en plus, quoi. Ils se disent, est-ce que c'est réellement important et tout, parce que bon, bah, pas l'impression d'être trop suivi derrière. J'ai l'impression que psychologiquement, j'ai pas eu trop de mauvais retours parce que les gens que je connaissais, ils vivaient pas seuls, donc ça allait quand même. Mais bon.
Vous avez réussi justement à trouver quelques petits astuces ou quelques petits trucs pour maintenir un petit peu d'informel.
J'ai un petit peu peur que l'usure du corps enseignant soit à la mesure de l'usure des étudiants. Quand je dis l'usure, c'est l'installation de la situation dans la durée, en fait. Il y a quand même eu quelque chose dont il faudrait peut-être parler aussi, c'est que ça a un petit peu modifié les relations entre enseignants et étudiants. Moi, j'ai jamais reçu autant de mails de remerciements. Le lien se fait sur un autre mode. Et moi, franchement, là, avant les vacances de Noël, quand j'ai commencé à recevoir des mails de remerciements hyper touchants, il y a eu plusieurs fois où j'étais à moitié en larmes devant mon ordinateur. En me disant, on a quand même réussi à faire deux, trois choses.
Il y a eu de la reconnaissance de la part de vos étudiants et de vos étudiantes.
En fait, c'est rigolo, en repensant à ce que je viens de dire, je crois qu'ils me remercient pour ce qui me fait. Pour ce qui est aussi important pour moi, c'est juste d'arriver à faire en sorte qu'on soit ensemble. Et je crois que c'est un peu le mot-clé en ce moment, comment on fait pour être ensemble. Et je crois que de temps à autre, on y arrive et que quand on y arrive bien, et ben, ça nous sort du marasme.
Et pour sortir de ce marasme, peut-être que vous avez appris des choses de cette crise, des méthodes de travail, des réflexions. Est-ce que vous en avez sorti quelque chose, appris quelque chose de cette crise sanitaire ?
Alors, peut-être pas apprendre, mais confirmer et redécouvrir. Par exemple, la capacité d'autonomie des étudiants. Leur capacité à se saisir des propositions quand on en fait. Enfin, un exemple tout bête qui m'a beaucoup impressionnée, parce qu'en plus c'est des premières années, au tout début du passage à distance, la plateforme de Rennes 2 a crashé. Parce que, tout à coup il y avait 20 000 étudiants à distance, donc c'était ingérable pour les informaticiens. Et très vite, mon groupe d'étudiantes TD m'a dit, madame, on va passer sur Discord. Et donc, ils nous ont tous embarqués sur Discord, ils ont créé des salons, des fils, ils ont mis les supports de cours, etc., etc. Et chaque semaine, c'est eux qui mettaient à jour le lien. Enfin, moi, en gros, je suis arrivée, le Discord, il était prêt, quoi. Il était prêt pour faire cours, avec tout à disposition. Et donc ça m'a paru intéressant, parce que c'est des choses que je vois dès qu'on leur laisse de l'espace, en fait. Mais il y a eu une forme de capacité à s'auto-organiser que j'ai trouvé extrêmement impressionnante. Et je l'ai vu à plusieurs reprises, parce que là, j'enseignais en L1, en L2, en L3, en master ce semestre. Donc, et ça, je le vois à tous les niveaux. Et donc ça, c'était une chose chouette, ouais, que j'ai redécouverte. Après, ce que j'ai appris, vraiment... je m'en doutais un peu, mais ça s'est confirmé, la place de l'informel, en fait. L'énorme place de l'informel, de tout ce qu'on capte dans l'air, dans l'atmosphère d'une classe, à la pause, tout ce qui nous échappe quand on est devant un écran, en fait. Ça, je m'en doutais un peu, mais c'est devenu criant. Parce qu'on s'en sert, en fait, pédagogiquement, enfin... Moi, quand je sens qu'il y a une forme de tension, ou que j'entends des voix qui se lèvent un peu, ou que je capte des mots, c'est souvent que je recommence ma deuxième partie de cours en essayant de reposer à plat. Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu vous parler de ci ou de ça. C'est tout ça, ça manque. On peut pas le faire. Donc, il faut trouver d'autres moyens de fluidifier la conversation et le cours.
D'autres moyens d'avoir la conversation, de créer un lien C'est une expérience en soi, mais Valériane, est-ce que vous avez des craintes ou des peurs sur la valeur entre guillemets, de votre master, est-ce que vous pensez que ce sera perçu tout de même comme une année comme les autres, vis-à-vis des employeurs, vis-à-vis de la suite de votre scolarité? Est-ce que vous avez des craintes vis-à-vis de cette année un peu pas comme les autres?
J'espère que les profs et même, oui, les employeurs prendront compte de ça. Mais j'espère qu'il y aura une certaine reconnaissance. Et puis surtout, mais ça, j'en doute un peu, surtout par rapport aux profs, mais j'ai l'impression qu'ils ne se rendent pas trop compte. Enfin, en tout cas, ils ont certaines exigences qui sont les mêmes, j'ai l'impression, que si on avait été en présentiel. Et pourtant, c'est pas motivant pour tout le monde, ces conditions. Enfin, c'est vraiment dur, surtout pour certaines personnes, j'imagine, à vivre. Mais sinon, on a quand même les stages qui ont pu se faire. Cette année, il y a quand même une certaine adaptation, je trouve, au niveau scolaire. Donc, je pense que ça va. Enfin, en tout cas, dans mon master. Mais je pense que certaines classes de licence et tout, ça a dû être plus compliqué.
On a pas mal parlé de votre classe. Et est-ce qu'avec vos collègues, que ce soit par exemple vos collègues de recherche, vos collègues d'enseignement ou même les personnes administratives, est-ce que le lien est aussi facile à maintenir?
C'est difficile. Enfin, ça dépend avec lesquels, évidemment, mais je pense que c'est structurel, en fait. C'est-à-dire qu'à l'université française, on n'est pas habitué à penser les cours en équipe. C'est-à-dire que chacun, souvent, fait un petit peu sa petite cuisine dans son coin. Et je pense que la crise sanitaire a aggravé ça. Parce que il y a moins d'occasions de se parler. Et de fait, ça s'est répercuté sur les étudiants parce que, en fait, quand on ne travaille pas en équipe, on ne dose pas forcément très bien le travail qu'on donne par rapport à ce que fait le collègue. Et donc, comme il nous manque le contexte général dans lequel est l'étudiant, ça donne du surtravail pour les étudiants. Parce qu'on va avoir collègue 1 qui va donner telle chose à faire, collègue 2 telle chose, et puis nous, on ne se rend pas bien compte, alors on redonne encore une chose, on ne se rend pas compte que ça fait beaucoup à la fin. Donc je trouve que c'est un des enjeux là, de parvenir, si jamais ça devait durer, à au moins, à, je sais pas, une chose qu'on pourrait faire par exemple, mais qu'on fait pas nous encore à Rennes 2, ce serait se fixer vraiment des réunions de pratique pédagogique plus souvent, parce que ça manque. Mais là aussi, problème structurel, en L1, nous, on a beaucoup de vacataires qui sont aussi profs dans le secondaire ou qui ont leurs occupations. C'est quand même un peu compliqué de leur dire, en plein milieu de la crise sanitaire et de toutes ces obligations, on va vous rajouter un point pédagogique tous les 10 jours pour savoir ce que vous avez fait et qu'on en discute, en fait. Donc c'est compliqué. C'est un problème entre la nécessité de penser collectif pour le bien des étudiants et une forme de défense de la liberté pédagogique des enseignants du supérieur. Il y a un peu aussi une culture du secret, je crois. Enfin, c'est pas, parfois pas très facile de savoir comment les autres s'organisent, ce qu'ils font concrètement, parce qu'on a l'impression parfois que poser ce genre de questions, c'est demander à ses collègues de se justifier alors que c'est pas ça. Et moi, je pense vraiment que le surtravail des étudiants et une partie de la situation du malaise qu'ils ont pu ressentir, est liée au fait qu'on a eu un mal de chien à se coordonner pour donner des parcours de formation à distance qui ne soient pas complètement écrasants en termes de volume de travail. Donc voilà, ça donne à réfléchir pour construire une université plus cohérente. Disons ça comme ça.
Et dans la vie de l'université, il y a tous les à côté, tout ce qui ne concerne pas les cours, qui n'a pas vraiment l'occasion d'avoir lieu en ce moment. J'imagine, Valériane, que ce sont des choses qui vous manquent. Les rencontres, les moments informels de discussion avec les autres étudiants et étudiantes.
Je pense surtout à la vie étudiante, par exemple, où on sort en bar pour sociabiliser avec la classe, etc. Et c'est vrai que on rencontre des gens, on danse, c'est chouette, c'est bonne ambiance. Et là, c'est sûr que je pense pas que ça va être pareil. Et ça, c'est dommage parce que c'est vrai que c'est vraiment l'aspect étudiant qui permet vraiment de lâcher prise et de faire des rencontres, quoi.
Et vous pensez que ce ne sera plus comme avant?
Ouais, je pense. Justement, dans tous ces lieux, on va dire publics, tous ces lieux de rencontres où on peut aussi partager des choses, des points de vue, parler. Et ça, c'est dommage. Parce que je pense que c'est vraiment les moments où, voilà, où il y a des débats, des discussions sur tout qui se font. Et bon, j'espère que ça aura quand même lieu, je pense, mais j'ai peur que ce soit beaucoup plus restreint et du coup que ça nous incite à rester qu'avec des personnes qu'on connaît vraiment, enfin un cercle proche, et un peu limiter le fait de rencontrer spontanément des nouvelles personnes sans vraiment y être préparé.
Et ça vous manque beaucoup.
Ah oui, bah oui, carrément. Oui, j'aime bien, moi, rencontrer du monde, etc. Donc, déjà, voilà, les bars, les restaurants, tout ça, enfin, je pense que tout le monde a envie que ça revienne. Mais voilà, ça, c'est vraiment un aspect qui me manque beaucoup. Et puis même, la culture, quoi, ça, c'est... Ça, faut que ça revienne. D'ailleurs, ça m'attriste un peu qu'on ait été presque privés de culture, en tout cas, même s'il y a eu des adaptations via les réseaux, etc. Je sais pas moi, de musées virtuels, etc. Mais j'aimerais vraiment que ça revienne à la normale, ça, parce que ça manque un peu. Donc de tous ces projets un peu culturels, artistiques, pouvoir faire des expositions, pouvoir surtout aller voir des expositions, et ça c'est chouette. Bah, c'est des choses on s'en rendait pas compte parce que c'était pas anodin, mais bon, c'était normal. Et du coup, là, le fait de devoir travailler, d'avoir des restrictions, tout le monde ressent qu'il manque une certaine saveur, quoi, qui est vitale finalement, à long terme.
Ouais, une saveur un petit peu du goût du quotidien, des choses un peu plus futiles, un petit peu comme parler avec ses étudiants et ses étudiantes à la machine à café, peut-être, Caroline ?
Discuter à la pause avec mes étudiants, exiger qu'ils aillent me chercher un café, exiger gentiment. Écouter les bruits du couloir, entendre le bruissement du campus, repasser le matin dans le bâtiment B en regardant les nouvelles affiches avec les nouvelles conférences, toutes ces choses-là en fait. Parce qu'il y a la salle de classe, oui, mais il y a toute la vie sur le campus. Voir mes étudiants, constater que le L1 que j'avais il y a 2 ans, c'est devenu un jeune adulte, hyper pertinent, hyper fin. Tout ça, quoi, tout ce qui nous manque un peu de chair et de sensible. Moi, le campus, c'est un lieu où je me sens bien aussi, où j'ai mes repères. Donc ça me manque, ouais, beaucoup. Donc j'attends impatiemment d'aller à la machine à café du bâtiment B et écouter, capter les petits bouts de conversation à droite à gauche des petits groupes d'étudiants. Voilà. C'est un bon projet 2021, c'est bizarre. Hein.
J'ai l'impression que ce qui ressort de ces échanges à toutes les deux, c'est que vous avez réussi à identifier ce qui faisait la différence entre ce qui peut bien se passer et mal se passer. C'est vraiment ce besoin de communication, de lien social, ce besoin de ne pas être seul. Est-ce que c'est ce que vous retenez de cette année, que le fait d'avoir maintenu un lien avec d'autres personnes, des étudiants, des étudiantes, vous ont aidé à tenir ?
Oui, 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 complètement. Des fois, je me dis, parce que comme mes colocs, ils sont dans des cursus où, quand ils sont efficaces pendant leurs cours, c'est suffisant et ils n'ont pas besoin forcément de réviser énormément à côté et tout. Et du coup, c'est vrai qu'eux, ils ont tendance à, chiller, à prendre du temps cool à côté, regarder des séries et tout, tous ensemble. Et moi, je me dis, oh là là, mais je suis beaucoup moins productive que si j'étais seule, etc. Mais au final, je pense vraiment que heureusement que je suis pas seule, évidemment, mais surtout que heureusement qu'il y a un peu ces côtés détente à côté, pas qui m'impose, mais conseille vraiment de prendre du temps aussi pour rien faire, et c'est bien parce que ça permet de décompresser. Et justement, je pense que c'est cet équilibre entre on travaille, on essaye d'être efficace et on prend vraiment un temps pour souffler et pour avoir des interactions aussi à côté qui permettent d'avoir un bon équilibre sain, quoi. Donc j'ai cette chance là. Et je pense que c'est ça aussi qui est hyper important dans les cours en présentiel. Enfin, aller à la machine à café, parler rapidement avec des gens, etc. Enfin, finalement, c'est des choses, comme je le disais, on s'en rend pas spécialement compte parce que ça faisait partie du quotidien, mais c'est essentiel, en fait, je pense.
Drag my feet along the floor. I pull my should unwalk out the door, drag my feet along the floor. Then I see you, you're walking across the campus, cool professor studying romances. How am I supposed to pretend?
Vampire Weekend avec Campus.
Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
De retour au Labo des Savoirs après cette pause musicale où nous allons continuer à entendre et écouter les témoignages d'étudiantes et de doctorants.
La crise sanitaire a profondément fragilisé les étudiants français. Pendant le confinement du printemps 2020, 27,5% d'entre eux témoignaient d'une anxiété sévère, presque trois fois plus qu'en temps normal. Un quart de leur population ressentait du stress et plus d'un sur dix évoquait des idées suicidaires. Cette souffrance psychologique est inquiétante. Mais cela ne s'arrête pas là. Pour certains étudiants, il est même devenu difficile de répondre à un besoin élémentaire, manger.
Extrait de Covid-19, comment la précarité frappe les étudiants, un reportage du Monde du 28 février 2021.
Pendant le premier confinement, au printemps 2020, 10% des étudiants de France ont déclaré avoir dû restreindre leur alimentation. En temps normal, 40% d'entre eux ont une activité rémunérée et gagnent en moyenne 728 euros par mois. Mais c'est une moyenne. Certains gagnent plus et d'autres gagnent moins. Alors, au moment du premier confinement, quand il n'y a plus eu de babysitting, que vraiment beaucoup de boutiques et de restaurants ont fermé, et que le soutien scolaire s'est arrêté, parce que tout le monde devait rester chez soi, eh bien, 36% des étudiants qui avaient un job se sont retrouvés sans emploi.
Julie, à quoi ressemblent vos journées ?
Plutôt toujours les mêmes.
Julie Fleurisson est étudiante en première année de licence Sciences de la vie à l'Université de Nantes. Elle nous raconte son quotidien.
Disons que j'ai cours tout le temps en distanciel, sauf qu'elle très peu de TD en présentiel, mais dans des conditions quand même assez particulières. Mais sinon, disons que je me réveille assez tôt le matin. Cours généralement pas toute la journée, mais à des horaires assez entrecoupés, on va dire, tout au long de la journée. Et puis en même temps, je bosse mes cours à côté.
Est-ce que vous avez eu des difficultés pour vous intégrer en première année de licence? Ce n'est pas la plus simple Avez-vous eu du mal à suivre les cours, à vous intégrer dans ce parcours ?
Alors, disons, m'intégrer, non. Après, on a fait des groupes de classe aussi avec notre groupe, mais c'est pas facile parce que du coup, surtout le second semestre, on s'est jamais vu, donc c'est un peu compliqué. Après, concernant les cours, c'est vrai qu'il y a des jours où c'est plus compliqué que d'autres à suivre. Il y a des jours où on est chez nous, derrière l'ordinateur, on est plus tenté parfois d'avoir envie de faire autre chose, d'avoir pas envie de suivre un cours, d'être que ce soit moins accrochant, disons. Donc, ça dépend des jours. Il y a des jours où c'est un peu plus compliqué que d'autres.
Et qu'est-ce qui te permet justement de tenir sur ces jours un petit peu plus compliqués, et même en général jusqu'à la fin de l'année ?
La motivation pour quand même me dire que bon, c'est qu'une passade, on est tous dans le même bateau et que l'année prochaine, j'espère, ce sera mieux et que ça reste temporaire et qu'il faut s'accrocher pour pas regretter d'avoir lâché.
Et est-ce qu'il y a eu des phases particulières ou des moments un petit peu plus difficiles ? Vous me parliez des cours en amphi où il n'y a pas d'interaction, où c'est vraiment difficile d'accrocher le cours. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez été découragé, où vous vous êtes posé des questions ?
Oui, c'est arrivé, notamment où il y a des jours où c'est pas le bon jour, la connexion Internet, ça va pas, on n'arrive pas à suivre le cours, que ce soit de notre côté ou du côté du prof, il y a des fois où il y a des bugs. Donc, c'est pas agréable pour tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a des jours où on n'est pas forcément de bonne humeur et on a juste envie de se dire aujourd'hui, je ferai rien, je suivrai aucun cours, c'est bon, j'arrête, ça m'énerve. Heureusement, parce que c'est arrivé, oui, plusieurs fois, heureusement pour ces jours-ci, on a l'avantage que les profs enregistraient chacun de leurs cours, quasiment tous les profs, en podcast vidéo. Donc, ça permettait des jours où il y avait un trop-plein, où j'en avais marre, de me dire au lieu de m'acharner, arrête, cette journée, tu feras pas cours. Et puis, sur mes temps libres ou mon week-end ou les jours suivants, rattraper ce retard. Et ça permettait justement de faire des coupures parce que oui, il y a des jours où j'avais juste envie de me dire, c'est bon, ça m'a saoulé, entre guillemets, et j'arrête, quoi. Mais après, ça reste passager. Et le lendemain, on se remet le pied à l'étrier en se disant, allez, on lâche pas, tu vas pouvoir rattraper ce que t'as loupé, c'était pas grave, t'as eu besoin de cette pause, t'as profité, mais il faut pas lâcher pour autant.
Et gérer, organiser un petit peu au jour le jour, est-ce que ça a demandé beaucoup d'énergie, d'autonomie dès le départ ?
Oui. J'ai dû m'organiser différemment, disons. Donc oui, ça a demandé beaucoup d'organisation et de discipline, je dirais, parce que on est vite tenté de se dire, tant pis, le cours, je le suis pas. Mais bon, derrière, il faut quand même le rattraper. Donc, faut quand même avoir une certaine discipline. Mais après, je pense que c'est un pli à prendre aussi. C'est une autre organisation. Au lieu de me dire, j'ai le trajet à la fac à y aller ou quoi. C'est une organisation différente. Mais bon, il faut s'organiser quand même, ça le fait.
Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place, déjà du côté de l'université, peut-être des initiatives personnelles de la part des profs et même entre vous, entre étudiants et étudiantes pour s'entraider et tenir le coup ?
Alors, notamment entre étudiants, plutôt, oui, on a créé des groupes via les réseaux sociaux, surtout, pour se poser des questions quand on ne comprenait pas un cours ou quand quelqu'un n'arrivait pas à suivre un cours pour X raisons, c'était souvent d'ailleurs pour des raisons de connexion. Lui dire s'il y a eu des choses dites importantes avant de pouvoir le rattraper, parce que parfois le prof peut nous informer de quelque chose d'assez urgent, ou même si on avait des questions via des exercices, des TD après, où on n'arrivait pas à joindre les profs, et après côté université, les profs étaient assez disponibles par mail notamment pour leur envoyer des mails pour leur poser toutes nos questions.
Et avec ces cours à distance, comment est-ce que vous jongliez entre les tâches du quotidien, un petit peu de survie, se nourrir, dormir, et dans le même espace, avoir les cours, faire la vie de l'université? Comment est-ce que vous jongliez entre les deux?
Le seul truc embêtant, c'est que on vit chez nous, mais du coup, on travaille aussi chez nous, donc tout se passe vraiment dans le même environnement. Et c'est vrai qu'il y a des jours où le bureau, on peut plus le voir, quoi. Parce que on mange là, on dort là, on fait les cours là. Donc il y a des fois où c'est un peu plus compliqué, mais l'organisation après reste
plutôt semblables.
Et en termes de vie étudiante, c'est probablement pas ce à quoi on pouvait s'attendre en entrant à l'université. Mais est-ce qu'il y a des choses que vous aviez eu l'impression de manquer cette année et que vous auriez eu envie de faire ou de refaire ?
Oui, complètement. La vie étudiante, il n'y avait pas de vie. Il n'y avait pas de vie étudiante dans le sens où le partage, le lien social, pouvoir sortir avec des amis, profiter, pouvoir aller boire un verre, vraiment avoir la vie étudiante hors cours, mais entre étudiants, je dirais, qui n'a pas du tout eu lieu cette année. Mis à part mes parents et via les réseaux sociaux, il y a quand même une barrière assez importante là-dessus. Quand je dis que nos réunions d'équipe avec AEGM étaient vraiment une soupape, parce qu'on pouvait se voir, parler entre nous hors cours, mais ça reste quand même du virtuel et ça a ses limites, bien sûr.
Est-ce que vous avez eu, parmi vos connaissances, parmi votre promo, des étudiants ou des étudiantes qui ont dû faire face à de la précarité ?
Je dirais pas de la précarité, mais oui, des difficultés. Moi, j'ai des amis très proches qui étaient donc seuls sur Nantes. Parfois, ne pouvaient pas rejoindre leurs parents. Déjà, il n'y a aucun soutien. Donc, la solitude, en fait, je sais qu'elle a pesé sur pas mal de mes amis, c'était vraiment pesant parce que là, pour le coup, on est tout seul dans son appartement. Il faut tout gérer tout seul, en plus des cours en distanciel. La solitude, vraiment, c'était vraiment compliqué. Et le fait d'être privé, en fait, un peu de sa famille ou autre, parce que même si habituellement, par exemple, on n'aurait pas été les voir aussi souvent, là, de se dire qu'on n'a pas le droit, même si on en a envie, on n'en a pas le droit, c'est d'autant plus frustrant et d'autant plus difficile.
Et est-ce que ça vous amène également de la frustration ou des questionnements de savoir que cette année n'a pas été tout à fait normale et est-ce que ça pourrait avoir des impacts sur la suite de votre scolarité, surtout parmi les futurs employeurs ?
Oui, complètement. Ah oui, ça c'est clair. Déjà, de se dire que si par exemple ça vient à se prolonger ou quoi, d'avoir quand même peur de se dire que si sur notre CV on voit que notre diplôme date de 2021, admettons, on nous dise que le diplôme n'a pas de valeur. C'est quand même une crainte, bien sûr. Moi, j'ai la chance et j'en suis reconnaissante d'avoir passé mon bac en 2019, donc la dernière, entre guillemets, année normale. Mais c'est vrai que je me dis, ça reste dans un coin de sa tête de se dire les gens qui ont passé le bac cette année, l'année dernière, ils sont pas avantagés, quoi. Moi, j'ai quand même cette crainte de se dire que quelqu'un à égale compétence sur un CV ayant eu son bac ou son diplôme, peu importe, en 2018, et quelqu'un d'autre sur cette année-là, que le choix soit vite fait pour quelque chose dont on n'est pas responsable, disons. Donc, ça reste quand même une crainte. Donc, bien sûr que la scolarité normale, je dirais, manque. Et pour ça, surtout pour la valorisation de nos compétences et notre avenir est primordial et c'est quelque chose qui me manque, entre guillemets. Ouais.
Et une fois qu'on en sera à peu près sortis, à peu près tous plus ou moins vaccinés, à quoi est-ce que vous vous attendez ? Est-ce qu'il y a des choses de cette crise qui pourront vous être utiles par la suite ou vous préférez juste tout oublier ?
Je pense qu'il y a quand même des choses à en retenir, que ce soit de l'organisation déjà, parce que ça a demandé vraiment beaucoup d'organisation et de discipline. De se dire que même si on n'a pas envie ou quoi, même si on est tout seul et qu'on n'a personne devant soi, quand même faire des exercices, c'est un exemple, mais des choses comme ça. Je pense qu'il y a quand même des choses à en retenir et je me dis que si ça s'est arrivé, on a certainement des choses positives à en tirer ou pas forcément positives, mais des choses à en apprendre en tout cas. J'espère en tout cas un retour à la normale à la rentrée prochaine, mais je pense qu'il y a quand même des choses qui resteront. Ça aura peut-être permis aussi de faire un saut positif dans le sens où il y a des choses comme la technologie ou le numérique aura jamais eu une aussi grande ampleur qu'à ce moment-là. Alors même si ça a ses limites et que ça nous a appris quand même pas mal de choses, que ce soit sur nous, sur notre manière de fonctionner, mais aussi sur la vie en général.
Le Labo des Savoirs. Émission activatrice de synapses.
Est-ce que ça ressemble à quoi un peu votre quotidien en ce moment?
C'est d'aller au labo le plus tôt possible quand on a fait une bonne nuit, quoi. Et puis après, généralement les expériences toute la journée, quoi. Mais voilà, ça ressemble à des journées habituelles, en fait.
Vous sentez autant entouré que d'habitude? En gros, les gens restent disponibles, quoi. Il y a pas de sentiment d'éloignement du fait d'un nouveau mode de travail, d'organisation du travail.
Au niveau des doctorants, on a quand même cet avantage-là d'être plutôt soudés, etc. Donc entre nous, on parle tout le temps à midi, etc. Puis vu qu'on peut venir au labo, on a quand même un lieu pour se retrouver au final. Puis au début, c'était un peu tendu parce que il y avait toutes les règles un peu sanitaires, mais on respecte toujours ces règles-là, mais je pense que ça s'est un peu détendu, quoi. Les gens sont plus détendus par rapport à ça, je pense. Ça commence à être un peu plus, les gens étaient un peu plus à l'aise avec la situation, sûrement l'habitude, en fait. Et ce qui fait que ça va remonter un coup.
Et au niveau du travail d'équipe, est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a toujours des moments, je sais pas si dans l'équipe il y a par exemple souvent des moments de points où vous vous rencontriez pour parler des recherches en cours ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a toujours des moments de partage quand même?
Par exemple, quand il y a eu le confinement là, c'était en novembre. En fait, on se réunissait à peu près toutes les deux semaines pour l'équipe, puis on faisait passer une heure, en fait, où il y avait généralement une personne qui parlait de ses travaux en cours, qui essayait d'exposer un peu ses problèmes et que dans l'idée que tout le monde puisse participer pour justement faire avancer le travail un peu de chacun, et puis une autre partie exposée. Et puis c'est vrai que l'année dernière, en fait, je crois que du coup ça a été complètement annulé, et là ça a repris au mois de janvier, plutôt agréable, mais on fait que la moitié du temps, en fait. Donc bon, franchement, au niveau du partage, beaucoup réduit les choses, mais on essaie de reprendre petit à petit. Donc c'est bien aussi, quoi.
Je me pose aussi la question, dans le cadre de ta thèse qui est en co-tutelle, est-ce que j'imagine qu'il y a eu des conséquences là-dessus?
Ma thèse, elle est entre mon co-tutelle, donc entre deux laboratoires, et puis donc il y a le laboratoire de Nantes et puis un laboratoire à côté de Montréal au Canada. Dans mon contrat, je suis censé passer un trimestre tous les ans là-bas, et généralement j'y vais en fin d'année, donc de septembre à fin décembre, quoi. L'année dernière, ça a tout simplement été annulé. Cette année, je devrais pouvoir y aller parce que au niveau de l'université là-bas, ils nous ont dit qu'ils se remettaient à accueillir les étudiants étrangers, mais c'est sûr que là-dessus c'est compliqué. Et puis on a vu que ça qu'on serait les choses un peu au dernier moment, donc on s'est dit dès le début l'année dernière, en début d'année, tant pis, on laisse couler cette année, on se prend pas trop la tête, et puis on laisse ça pour l'année prochaine, quoi. Quand les choses se seront un peu tassées, je pense que du coup ça m'allait bien aussi, quoi. Mais c'est sûr que ça impacte beaucoup. Là, je suis en dernière année normalement, donc je suis censé soutenir en octobre, donc là si j'y vais en septembre, ça va être je dois y rester 4 mois, forcément ça va décaler la fin de ma thèse.
Mais j'imagine que pour la fin de la thèse, ça va être un peu compliqué du coup d'anticiper la suite, quoi.
On a tous été impactés par le Covid et de manière, je pense, assez forte. C'est plusieurs mois de travail qui sont perdus, le temps de se réadapter, de machin, donc c'est pas rien, quoi, je pense, dans le cas d'une thèse. Et il y a beaucoup de gens qui, du coup, essaient de récupérer ce temps-là sur les extensions, mais il faut pouvoir avoir des financements. Donc c'est une galère, quoi. Et moi j'ai un peu cet avantage là. Après ça va être compliqué parce qu'il va falloir que je me réinscrive dans les deux universités, il va falloir que je demande des extensions dans les deux universités que je puisse justifier, et puis c'est sûr que ça va être des galères en plus.
Tu disais tout à l'heure que vous aviez le moral plutôt en ce moment. Qu'est-ce qui vous permet de tenir?
Je pense que nous, là, on est entre guillemets en dernière année de thèse, donc on a quand même mis pas mal de pression au niveau du travail. Le fait qu'on puisse aller au le fait qu'on puisse aller au laboratoire, déjà ça nous aide pas mal, parce que la plupart de nos thèses sont dépendantes de nos expériences, et si on peut pas aller au labo pour travailler, la thèse ça avance pas, quoi. Donc déjà ça en soi c'est déjà pas mal. Puis comme je disais tout à l'heure, le fait qu'au final on arrive à se retrouver un peu, en fait on arrive à avoir les gens un peu les de parler aux gens qu'on avait l'habitude de parler, donc les autres doctorants au labo, etc. On essaye de se voir un peu aussi entre nous hors du labo, enfin hors de temps de travail. Donc bon, après, donc en fait on, ça suffit, et le fait de reste on compense parce qu'on fait la part des choses, et puis voilà quoi. Après c'est sûr que on va dire qu'on maintient la tête au-dessus de l'eau quoi. Donc le moral est, on va dire, relativement bon pour ça, mais
Justement, par rapport à ça, est-ce que par rapport notamment à votre boulot, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des choses qui reviendront jamais vraiment à la normale, entre guillemets, enfin du moins à la situation pré-Covid?
Bon, en termes de fonctionnement, moi, je pense que déjà on aura peut-être toujours les masques, des choses comme ça, je pense que ça va rester. Mais non, je pense que ce qui va être plus, ça va plus être la mentalité des gens, quoi, qui va être affectée, c'est sûr. Enfin, y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles à ça que d'autres. Donc, je pense que ça va plus impacter la mentalité des gens. Mais ça va peut-être pas forcément se voir tout de suite. Après, au niveau du fonctionnement en laboratoire, à part les mesures sanitaires, je pense pas que. Mais ça, je pense que ça va être durable beaucoup. Je pense que même quand ça ira, entre guillemets, un peu mieux, je pense qu'on aura encore les masques, des choses comme ça.
Oui, parce que je pensais, par exemple, j'imagine qu'il y a eu pas mal de soutenances de thèse là, en novembre-décembre, c'est la saison quand même. Et vous avez pu en assister comment ça se passait
Globalement, les soutenances se sont faites un peu en présentiel quand même. Hein, ouais. En gros, on avait les amphis ouverts avec capacité limitée. Ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'il y avait des enregistrements en même temps, donc ceux qui voulaient regarder sur YouTube ou quoi que ce soit, bah voilà, c'est comme ça. Mais après, il y a aucune vie de laboratoire, quoi. Enfin, je veux dire, il y a aucun prothèse, mais d'habitude, il y a un dîner, enfin, il y a un repas, tout ça, c'est mort. On a que la partie fun.
Est-ce que vous avez l'impression que, durant cette période, vous avez appris des choses sur votre métier? Que vous auriez pas forcément appris avec autant d'intensité ou même que vous auriez pas pu voir si jamais il n'y avait pas eu le contexte actuel.
Honnêtement, je pense absolument pas. À part nous mettre plus de pression pour l'organisation, pour tout ça. Non. Donc vraiment rien de positif pour le travail. Vraiment pas. Puis même par exemple, on doit faire tout ce qui est conférences, etc. Puis y assister, quoi. Je sais qu'il y en a qui ont fait des webinaires, des choses comme ça, mais bon, ça enlève un peu tout l'intérêt, quoi. Les échanges restent hyper limités, on n'a pas l'occasion de voyager. Donc non, c'est que des mauvais côtés, je pense.
Le son des sciences au Labo des Savoirs.
Les témoignages que vous venez d'écouter ne sont qu'une bribe de la vie des universités, de la vie en temps de pandémie des universités. Les étudiantes et doctorants que nous avons interviewés l'ont dit eux-mêmes. Ils et elles se sont sentis privilégiés dans cette crise et se sont adaptés tant bien que mal. Avant la crise sanitaire, on estimait que 20% d'étudiants et étudiantes vivaient sous le seuil de pauvreté. Et ce taux a augmenté pendant la crise sanitaire. Une enquête de l'Ipsos de juillet 2020 a montré que 74% d'entre eux avaient eu des difficultés financières durant les 3 derniers mois. Les personnes précaires et fragiles l'ont été plus encore. Isolées, sans possibilité de travailler et de subvenir parfois à leurs besoins, en témoignent les trop longues files d'attente pour recevoir une aide alimentaire. La recherche fonctionne aussi en mode dégradé. Expérience retardée, partage des connaissances difficiles et incertitude sur les moyens à venir. Chercheuses, techniciens de laboratoire, ingénieurs de recherche, tous les métiers ont été touchés. Et ce ressenti est partagé parmi les enseignants. Lassitude, manque de vie hors des cours et manque de lien social. Quant aux doctorants et aux doctorantes, ils et elles ont été nombreux à soutenir plus de 3 ans de travail, de recherche intense, derrière une webcam. privés de la célébration de la soutenance avec leurs collègues et leurs proches, mais avec le doute sur la suite de leur carrière. Sans oublier les personnels administratifs des universités, les contrats précaires, les attachés temporaires de recherche, les post-doctorants, les vacataires. La liste des métiers bouleversés par l'absence des étudiants sur les campus est longue. Et ce, parfois, dans un contexte d'économie de moyens, qui datait d'avant le début de la crise sanitaire. Nous ne pouvons que vous inviter à continuer d'entendre ces témoignages et de prendre le temps de les écouter. Nombreux sont ceux et celles qui se sont exprimés à ce sujet, dans les médias et sur les réseaux sociaux. Cette jeunesse et cette université qui veut parler et montrer sa réalité derrière le masque. C'est désormais la fin de cette émission. Je remercie à nouveau Lucas Huet, Caroline Muller, Julie Fleurisson et Valériane Toby d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci également à Jérémy Freixas pour la préparation de cette émission. Vous pouvez la retrouver, ainsi que les précédentes, sur labodessavoir.fr ainsi que sur nos réseaux sociaux. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.
FM.
Fresh and clean, fresh and clean, yeah. Fresh and clean, fresh and clean. Fresh and clean, fresh and clean. Yeah, yeah, yeah. Someone want me step on the scene. Oh, I'm so blessed and free. Rebel woman step on the scene. Oh, I'm so fresh and clean. From my open my eyes, give thanks to the Most High. Give thanks, giving thanks for life. No stress, no stress in my sight. Though when you come around, you can't hold me down. You can't kill me with no attack. Whoa, try your best, my life not stress. Just all the vibe I need. But you got to be a rebel. Keep your mind right, meditate for good measure. Read the Psalms a day to chase away the devil. Keep your heart clean so your days can be better. You got to be a rebel. You have to live on a rebel. Oh, you got to be a go-getter. If you really wanna take it to another level. Fresh and clean, fresh and clean. Fresh and clean, fresh and clean. Yeah, yeah, yeah. Come on, must step on the scene. Oh, I'm so blessed and free. Everyone must step on the scene. Oh, I'm so fresh and clean. The half that has never been told. We are kings and queens with no crown. We hail from a legacy renown. Just check your skin tone. Daddy, fresh, mommy, fresh. All of my siblings and friends fresh. JLL fresh. Mic check. So when we step out, we're ready and blessed. Oh yeah. We are kings and queens. We are kings and queens. We are fresh and clean. We are fresh and fresh and clean. We are kings and queens. We are kings and queens. We are fresh and clean. We are fresh and clean.
Fresh and clean. Fresh and clean. Yeah. Fresh and clean. Fresh and clean. Fresh and clean, fresh and clean, yeah. Fresh and clean, yeah. Fresh and clean, oh yeah. Fresh.
the sea. Oh, I'm so blessed and free. Rubber room must step on the sea. Oh, I'm so fresh and clean. Fresh and clean, fresh and clean. Fresh and clean, fresh and clean. Fresh and clean, fresh and clean.